rappel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans un instant, vos questions à la rédaction, comme tous les jours, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets qui font l'actualité. Et puis dans 30 minutes, nous reviendrons sur le dialogue national en République démocratique du Congo, un dialogue censé aider à l'organisation des élections. Mais depuis lundi, les réunions sont suspendues. Les partis de l'opposition présents autour de la table protestent contre la volonté de la majorité, contre la volonté donc du pouvoir d'organiser d'abord les élections locales et ensuite la présidentielle, ce qui retarderait évidemment encore un peu plus le scrutin présidentiel, alors que le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila se termine dans 3 mois. En tout cas, pour l'instant, tout semble indiquer qu'il n'y aura pas d'élection d'ici à la fin de l'année, comme le prévoit la Constitution. Alors comment relancer le dialogue? Comment sortir de l'impasse? L'opposition a-t-elle raison de contester ce calendrier électoral? Nous en parlerons ensemble dans une trentaine de minutes. Vous continuez évidemment à nous appeler ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vos réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat. Donc, vos questions d'abord, comme chaque matin. On va s'intéresser à l'état de santé d'Hillary Clinton, la candidate démocrate aux élections américaines. Xavier, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Brazzaville. On vous écoute.
Ah oui, effectivement, je souhaite savoir quelle pourrait être les conséquences de son état de santé, d'Hillary, sur la poursuite de sa campagne, et que se passerait-il au cas où elle devait jeter l'éponge, au cas où elle devait abandonner?
C'est vrai qu'il arrive.
Ce qui est prévu par la loi.
Évidemment, la loi électorale et surtout ce qui est prévu dans les statuts du Parti démocrate. Françoise Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la politique intérieure des États-Unis, maître de conférence à l'université Toulouse Jean Jaurès. On voit bien qu'Hillary Clinton essaye de limiter les dégâts après son malaise dimanche lors de la commémoration des attaques du 11 septembre à New York et surtout l'annonce de la pneumonie dont elle souffre. On a l'impression, en tout cas vu de Paris, que l'impact est désastreux sur sa campagne.
Ah oui. Complètement. C'est vraiment une très très mauvaise passe pour elle, parce que ça confirme, alors à la fois d'une manière juste et injuste. C'est injuste parce que ça confirme toutes les folles rumeurs qui circulent au Parti républicain sur son, le fait qu'elle soit très malade, qu'elle est, il y a la maladie de Parkinson, qu'elle a une pile dans le cerveau. Bon, tout ça, c'est du délire, mais ça apporte de loin ce délire-là. Et ce qui est juste, enfin, c'est qu'on a le droit de la critiquer parce que, sachant tout ça, elle a très mal géré la crise. Puisque cette pneumonie dont vous parlez, elle a été diagnostiquée vendredi. Et le malaise, il a eu lieu dimanche. Donc si elle n'avait pas eu ce malaise lors des cérémonies, personne n'aurait su qu'elle avait la pneumonie, alors que c'est quand même important. Donc comme en plus elle a la réputation d'être cachotière, avec cette histoire d'email, tout ça, ça confirme toutes les perceptions négatives qui existaient déjà à son sujet.
Ouais, c'est vrai
et
que
là,
c'est
vraiment elle qui se tire une balle dans le pied.
Effectivement, et c'est vrai que ce manque de transparence accrédite toutes les rumeurs dont vous parliez à l'instant sur son état de santé. C'est vrai que dans un premier temps, le malaise avait été mis sur le compte d'un coup de chaleur, et puis quelques heures plus tard, on apprend qu'elle souffre d'une pneumonie, mais on apprend qu'elle souffre d'une pneumonie parce qu'une vidéo commence à circuler sur les réseaux sociaux, et on voit bien sur cette vidéo, Hillary Clinton, incapable de se tenir debout, on la voit être soutenue par ses gardes du corps qui l'aident à monter dans la voiture. Donc si ce n'était pas cette vidéo amateur, on ne saurait pas aujourd'hui qu'elle est effectivement qu'elle souffre d'une pneumonie. C'est du pain béni, cette affaire, pour Donald Trump.
Complètement. En plus, Bill Clinton a été interviewé à la télé hier ou avant-hier, et il a continué il a aggravé le cas parce qu'il a dit, il a parlé aussi de déshydratation, mais en disant qu'elle ne boit pas assez d'eau. Mais vous connaissez, vous, beaucoup de gens qui s'évanouissent, qui n'arrivent plus à marcher parce qu'ils ne boivent pas assez. Il ne faisait pas très chaud à New York dimanche. Donc, ça a l'air d'être... Est-ce que c'est vraiment une pneumonie? Enfin, c'est très flou. Et on a envie qu'une candidate à la présidence sache boire quand elle a soif. Quoi. Donc, c'est vraiment... Oui, alors, et Trump la joue bien parce que on aurait pu penser que, vu ses penchants habituels, il allait tout de suite aller sur Twitter et faire un petit scandale. Et non, là, il a été assez mesuré dans sa réponse. Donc lui, justement, il a une réponse un peu, une attitude plus présidentielle. C'était très rare, mais il le gère très bien.
Oui, il est mesuré, mais tout cela est calculé. C'est-à-dire qu'il lui souhaite un prompt rétablissement, évidemment. Mais il fait en sorte, justement, que le débat politique soit accentué sur l'état de santé d'Hillary Clinton. Parce que s'il avait critiqué l'état de santé d'Hillary Clinton, évidemment, on aurait dit tout de suite, ah bah voilà, il en profite pour en faire une affaire politique. Là, le fait de s'abstenir de lancer la polémique, il laisse les journalistes et les éditorialistes focalisés exclusivement sur l'état de santé d'Hillary Clinton. Donc stratégiquement, évidemment, c'est très très bien vu de la part de Donald Trump. Le scénario semble très hypothétique, Françoise Coste. Xavier nous demandait, que se passerait-il si Hillary Clinton se retirait de la course à la Maison-Blanche?
Alors ça, c'est la question en $1 million, parce que personne n'a la réponse. Ce n'est jamais arrivé. Il y a des candidats qui ont... se sont retirés pour des raisons de santé, mais toujours au stade des primaires dans l'histoire américaine, jamais après les conventions. Et c'est ça qui bloque. Une fois que la convention s'est réunie et a voté officiellement pour choisir un ticket, on ne sait pas défaire ce que la convention a fait. Alors le Parti démocrate a des statuts qui précisent que les leaders du parti peuvent se retrouver en urgence si le candidat se retire et le remplacer, mais... la réunion est prévue, mais pas le processus de décision de la réunion. Mmh. Et de toute façon, quelle légitimité auraient deux ou trois hommes à Washington à décider de changer la candidate?
Donc il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B du côté démocrate si jamais Hillary Clinton est amenée effectivement à se retirer de la course à la Maison Blanche. Xavier, on a répondu à vos questions?
Ah oui, merci Juan.
Eh bien, merci surtout à Françoise Coste, maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et puis, sachez qu'RFI vous propose un nouveau rendez-vous pour vivre au plus près cette campagne électorale. Ce sera tous les mercredis, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'au 8 novembre. Vous saurez tout sur ce qui fait le buzz autour de ce scrutin présidentiel. Cap sur la Maison Blanche, c'est donc le mercredi matin et aussi tout à l'heure, ce soir à 20h10, heure de Paris par exemple. À suivre également sur les réseaux sociaux. Alexandre Seban, du service des sports, me rejoint à l'instant. Bonjour Alexandre.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On a une question football, question sur le championnat français avec l'arrivée de Super Mario à Nice, sur la Côte d'Azur. Bonjour Paul.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci. Balotelli a joué son premier match avec l'OGC Nice le dimanche dernier et a inscrit un doublé. Et du coup, peut-il relancer sa carrière avec son nouveau club? Et avec l'arrivée de Mario Balotelli, le club Nice peut envisager le podium de la Ligue 1 à la fin de la saison?
Alors, c'est les questions que tout le monde se pose, Alexandre Seban. C'est vrai qu'au début de sa carrière, Balotelli était annoncé comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Depuis deux saisons, sa carrière est au point mort. Il arrive à Nice. Est-ce qu'il va relancer enfin sa carrière?
Je ne peux que vous répondre par un oui franc et massif. Mario Balotelli traversait, vous l'avez dit, une passe très compliquée depuis deux ans dans sa carrière de joueur précoce et talentueux. On le rappelle, il a débuté en Italie en 2006 à Lumezzane avant les premiers grands espoirs en 2007 à l'Inter Milan alors qu'il n'a que 17 ans. Puis, c'est Manchester City, 80 matchs, 30 buts en deux saisons et demie entre 2010 et 2013. Il revient ensuite en Italie pour une raison personnelle, cette fois au Milan AC avec qui il marque encore plus les esprits, 30 buts en seulement 54 rencontres. Mais les à côté de la starification le rattrapent, les sorties, les frasques, les petites amies extravagantes, des photos fracassantes sur les réseaux sociaux, son naturel immature l'exhibait trop en dehors des terrains. Et usé même jusqu'à ses propres coéquipiers, qui pourtant ont toujours gardé une certaine sympathie envers lui, c'est important de le signaler. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule de ses phrases, qu'en 2011, il a attaqué à coups de fléchette les joueurs du centre de formation de Manchester City parce qu'il s'ennuyait. Ouais. Alors malgré tout, au Milan, ça fonctionne, mais coup de théâtre, après une saison et demie, il s'engage en 2014 à Liverpool. C'est le début de la galère. Deux saisons gâchées, on l'a dit. Un retour en prêt au Milan assez stérile. Et cet été, avant de signer à Nice, il faut comprendre que le phénomène de foire Balotelli n'amuse plus personne et presque aucun club ne le désirait. Et à ce moment-là, il a dû sentir comme beaucoup d'observateurs, que le talent brut ne suffit pas et que le nom Balotelli rimait du coup avec gâchis. Heureusement, il y a eu l'offre de Nice. Et d'ailleurs, son compatriote et parfois coéquipier en sélection nationale, Marco Verratti, le joueur du PSG, résumait bien la situation lundi en conférence de presse.
Mario, c'est un bon joueur. Son problème, c'était toujours un peu la mentalité. Mais je sais que lui, c'est un bon garçon. Et j'espère vraiment avec tout le corps qu'il va changer un peu. Il va comprendre que le football, c'est pas les 80 minutes de le match, mais c'est toute la semaine, c'est petit à petit de s'agrandir parce qu'il a beaucoup de qualités et je pense qu'il peut devenir encore un grand joueur.
Voilà, Verratti avec son accent italien, c'est un bon joueur, nous dit-il, c'est un petit génie, tout le monde est d'accord pour le dire, simplement il est imprévisible. Le football, ce n'est pas que les 90 minutes sur le terrain.
C'est exactement ça, le problème c'est les frasques, les à côté qu'il a connus, et que, si du coup Balotelli se concentre uniquement sur son travail, il réussira à Nice.
Ouais, en tout cas, le président de l'OGC Nice fait le pari que Balotelli peut changer. Est-ce qu'il peut dynamiser cette équipe niçoise et la placer effectivement en tête du championnat français?
Alors, Nice, avant Balotelli, c'est-à-dire le gym de la saison dernière, était déjà haut en Ligue 1. Les Niçois ont terminé 4e du championnat, se qualifiant de facto en Ligue Europa. Ils étaient à 3 points seulement de la 2e place derrière le PSG. Malheureusement, ils ont terminé 4e derrière Lyon et Monaco. Et donc, en fait, aujourd'hui, Nice veut rester à ce niveau-là. C'est déjà pas mal. Mais l'ambition, c'est de monter sur le podium, évidemment, et de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Alors, cet été, Nice a perdu Valère Germain, le buteur, Atem Ben Arfa, que tout le monde connaît, ouais. Il est parti au PSG, l'entraîneur Claude Puel, mais le nouvel entraîneur suisse Lucien Favre est arrivé d'Allemagne avec une bonne réputation et aussi pour poursuivre justement le travail de Claude Puel. Alors, c'est-à-dire intégrer des jeunes, mais surtout proposer encore du jeu, des buts, du spectacle et des résultats. Alors, si Mario Balotelli le veut vraiment, il a le talent nécessaire pour devenir la star de l'équipe, mais surtout un buteur prolifique qui permettra en effet de rester à Nice en haut du classement.
Il a inscrit quand même 2 buts dimanche soir face à l'Olympique de Marseille.
Et voilà, vous l'avez dit, c'est l'homme qui a été élu homme du match face à l'OM. Il marque 2 buts importants, il donne la victoire à l'OGC Nice. Donc si ses neurones ne surchauffent pas trop, Balotelli à 26 ans deviendra sans doute l'une des plus belles attractions de la Ligue 1 cette année.
Balotelli sera-t-il le nouveau Zlatan du championnat français? À suivre évidemment. Merci beaucoup Alexandre Seban. Paul, belle journée à vous à Bamako dans la capitale malienne où il est 8h23. Vos questions, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Nous partons au Cameroun. Gilbert, bonjour.
Bonjour Juan, vous allez bien?
Très bien, merci de nous appeler de Douala. Vous avez-vous des questions concernant la Corée du Nord?
Ah oui, vendredi dernier, la Corée du Nord a mené un 5e essai de missile, le plus puissant à nos jours. À ce sujet, j'ai 2 questions. En cas de nouvelle provocation, la Corée du Sud se dit prête à riposter. Qu'envisage-t-elle de faire?
Ah, qu'envisage de faire la Corée du Sud? C'est vrai que Séoul affirme que la Corée du Nord est prête à un nouvel essai, à un 6e essai, et Séoul affirme même que son armée est totalement prête à répondre à d'autres essais nucléaires du régime nord-coréen. Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la Corée du Nord. C'est la première fois que la Corée du Sud menace ouvertement la Corée du Nord d'une attaque préventive, totale et même définitive. Vous y croyez?
À vrai dire, il est difficile d'y croire parce que il faut simplement se poser une toute petite question géographique, tout simplement. Il faut avoir une idée des proportions. La Corée, la péninsule coréenne, c'est grosso modo la taille de la Grande-Bretagne. Donc vous imaginez l'Angleterre et l'Écosse pour la Corée du Nord. Les Nord-Coréens ont une stratégie très précise qu'on appelle, d'un point de vue militaire, embrasser l'ennemi. C'est-à-dire que les troupes sont très 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 proches de la frontière sud-coréenne et toute explosion condamnerait à la fois la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc au Nord, il n'y a probablement pas de risque de toutes les façons suicidaire ni d'envie d'attaquer la Corée du Sud. La Corée du Sud, quant à elle, aura du mal à attaquer la Corée du Nord parce que s'il y avait un véritable conflit sur la DMZ, donc qui partage la péninsule en deux, cela impacterait à la fois le Nord et le Sud.
Alors comment faut-il tout de même interpréter les propos d'un haut fonctionnaire, d'une source militaire militaire sud-coréenne qui dit « Les districts de la capitale nord-coréenne supposés abriter les leaders du régime communiste seraient visés et la ville, donc la capitale, serait réduite en cendres et balayée de la carte ».
Oui, alors ça, c'est la première fois qu'on a ce genre de déclaration, mais le risque est énorme. Il faut se poser la question de qui a intérêt à ce qu'il y ait une explosion sur la péninsule coréenne, ni la Chine, ni le Japon, ni la Corée du Sud, ni les États-Unis. Donc, cette montée des tensions est assez surprenante, et c'est vrai que c'est la première fois depuis le premier essai nucléaire nord-coréen en 2006 qu'on va si loin dans les paroles. Ceci dit, Park Geun-hye, la présidente sud-coréenne, n'est pas seule à décider. Vous avez également Barack Obama, vous avez les États-Unis qui sont au sud de la péninsule. Et est-ce que les États-Unis se risqueraient à soutenir une attaque vers la Corée du Nord alors justement qu'on est en pleine campagne présidentielle? C'est loin d'être sûr.
Ouais, c'est loin d'être sûr. En même temps, les États-Unis ont fait une démonstration de force il y a deux jours contre la Corée du Nord en permettant à deux bombardiers américains de survoler la Corée du Sud. Finalement, pour répondre à Gilbert, quelle peut être la riposte ou quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui de la Corée du Sud face à la menace nord-coréenne ?
Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, même une attaque ciblée risquerait de déclencher un cataclysme. Donc c'est une décision extrêmement importante qui ne dépend pas uniquement de la Corée du Sud.
Merci Juliette Morillo d'avoir été avec nous, spécialiste de la Corée du Nord. Gilbert, bonne journée à Douala. On va terminer avec Nabi qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Nabi.
Oui, bonjour Monsieur Gomez.
Vous avez des questions sur le Brexit ?
Oui. En effet, la semaine dernière, le président du Conseil européen avait demandé le déclenchement du Brexit le plus tôt que possible. Je voudrais connaître quel est l'intérêt pour lui de faire une telle demande et quelle a été la réaction de Mme Theresa May par rapport à cette demande.
Ouais, c'est vrai que ça fait deux mois et demi maintenant que le référendum a eu lieu au Royaume-Uni et les Européens s'impatientent. Catherine Mathieu, bonjour. Spécialiste du Royaume-Uni, économiste au département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est vrai que pour l'instant, la première ministre britannique n'a toujours pas donné le coup d'envoi à la sortie de son pays de l'Union européenne.
Non, effectivement, ce qu'elle dit, c'est qu'elle aimerait pouvoir déclencher la sortie formelle du Royaume-Uni de l'Union européenne en début d'année prochaine. Donc en fait, elle aimerait avoir un petit peu de temps encore pour pouvoir discuter avec la classe politique au Royaume-Uni et avec les Européens pour organiser au mieux la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne du point de vue britannique. Et ça, bien sûr, ça pose problème aux pays de l'Union européenne qui, eux, voudraient que le plus rapidement possible, on sache quelles vont être les demandes britanniques en matière de sortie de leur pays, ce qu'ils vont vouloir garder, l'accès au grand marché, les mouvements des travailleurs, toutes les questions qui se sont posées lors du référendum. Et pour l'instant, Theresa May, en fait, joue la montre et attend de dire ce qu'elle va exactement demander.
Ouais, elle attend, certains disent même qu'elle pourrait attendre jusqu'aux élections françaises au mois de mai, voire même jusqu'aux élections en Allemagne, c'est-à-dire dans un an, pour donner le coup d'envoi et activer ce fameux article 50 du traité de Lisbonne.
Alors ça me paraîtrait quand même un horizon très lointain parce que bon, non seulement, comme vous le disiez à l'instant, les Européens souhaitent que Theresa May déclenche le plus vite possible ce fameux article 50 pour que le Royaume-Uni commence à quitter formellement l'Union Européenne. Et puis d'autre part, dans la classe politique britannique, à commencer par Boris Johnson, on souhaite que très vite aussi le processus se mette en place. Donc c'est pour ça que le début de l'année prochaine, avant les élections françaises et avant les élections allemandes, ça paraît aujourd'hui le plus probable, tout en sachant qu'ensuite il y a au moins deux ans pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et que là, en fait, pendant les mois des élections en France et en Allemagne, peut-être il ne se passerait pas grand-chose, oui. Du moins sur la scène officielle.
Effectivement, vous parliez de Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères. C'est vrai qu'il fait pression sur Theresa May pour qu'elle accélère le rythme. Il lui a clairement demandé d'aller plus vite dans ce processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Catherine Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Nabi, bonne journée à Conakry. Restez avec nous dans un instant, la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour notre débat consacré au dialogue national en RDC.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.
Priorité santé. Claire et